Amis auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission. Nous allons consacrer notre émission d'aujourd'hui à l'histoire plus récente. Nous allons parler d'un séminaire d'un genre tout à fait spécial qui réunissait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale plus de 900 prêtres allemands, séminaristes, prisonniers de guerre. Et cet extraordinaire séminaire, le séminaire des Barbelés, sans doute le plus grand qui ait jamais existé au monde, s'appelait donc séminaire des Barbelés car il réunissait des prisonniers à la fin de la guerre. Et il se situait non loin de Chartres. Il fut dirigé par une figure lumineuse, celle de l'abbé Franz Stock, prêtre allemand, qui avait durant de longues années de l'occupation allemande accompagné plus d'un millier de résistants français au peloton d'exécution au Mont Valérien. Car en 1940, il devint aumônier des prisonniers de Fresnes, de Fresnes, du Cherche-Midi et de la Santé, où étaient enfermés des résistants. Et l'abbé Franz Stock remplit avec une grande audace et mais une sage prudence la tâche si difficile de préparer tous ces prisonniers des résistants à la mort. Plus d'un millier de condamnés donc, qu'il fallait orienter si possible vers Dieu. Et d'éminentes figures de la résistance française, tel un Edmond Michelet, vont lui rendre hommage après la guerre. Plus récemment, nous avons eu un hommage rendu à l'abbé Franz Stock par le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a reçu le ministre-président du Land Rhénanie du Nord-Westphalie, d'où était originaire l'abbé Stock, et ils ont rendu un hommage à ces prêtres à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort. Nous allons parler donc du séminaire des Barbelés et de l'abbé Franz Stock, et qui mieux que Hubert Briand, délégué chartrain de l'association des Amis de Franz Stock, qui d'autre que lui donc pourrait nous parler du séminaire des Barbelés, qui est donc un séminaire extraordinaire. Et comment se fait-il, monsieur Briand ? Bonjour d'ailleurs.
Bonjour.
Que ce séminaire extraordinaire se situe, ou se soit trouvé près de Chartres.
Ce séminaire des Barbelés s'est peut-être trouvé près de Chartres, pas tout à fait par accident, mais à la suite d'un événement particulier. La décision de créer avait été orientée vers Orléans dans un premier temps, donc sur la caserne Dunois, en plein milieu d'Orléans. Et c'était une caserne qui ne présentait pas les avantages requis, disons, pour une œuvre telle qu'une université catholique dans un camp de prisonniers. Étant donné que la caserne Dunois, le camp de prisonniers numéro 51, était située en pleine ville d'Orléans, et donc c'était une petite caserne dans laquelle les prisonniers étaient en promiscuité, ceux d'entre eux qui étudiaient et ceux d'entre eux qui étaient astreints au commando de travail sur les chantiers particulièrement. Donc il s'est vite instauré une jalousie entre les étudiants en théologie et les ouvriers, les prisonniers contraints au travail. Donc l'ambiance étant fortement désagrégée, et d'autre part les conditions d'alimentation n'étaient pas opportunes non plus, il a été décidé de ramener les étudiants en théologie sur le camp numéro 501 de Chartres-le-Coudray. Alors ce camp présentait un avantage par rapport à Orléans, c'est qu'il était situé d'une part à 3 km de la ville, donc il n'y avait pas de problème avec la population qui, bien sûr, dans cette période particulière, avait une certaine haine encore des Allemands. Et puis d'autre part, ce camp était extrêmement grand, puisqu'il avait abrité dans un premier temps 38 500 prisonniers de guerre. Le camp faisait 34 hectares, et donc il y avait de la place pour créer une partie isolée à l'intérieur du camp, qui permettrait donc de protéger, cette fois-ci, les étudiants en théologie, de façon à leur permettre d'être plus sereins pour assurer l'avenir de leurs études. Et d'autre part, on pouvait aussi gérer cette partie du camp, cette université dans le bloc numéro 1, d'une manière un petit peu indépendante par rapport au reste des prisonniers.
Donc les chartrains savaient qu'il y avait un camp de prisonniers. Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait cet extraordinaire séminaire qui réunissait à certains moments plus de 500 séminaires en une seule fois ?
Eh bien non, étant donné que la population d'Orléans avait déjà eu quelques contacts assez houleux avec le séminaire du camp numéro 51 d'Orléans, donc à Chartres, on avait décidé de conserver une certaine indépendance et une certaine discrétion autour de l'existence de cette université catholique.
Mais néanmoins, le tout fut organisé sous la responsabilité de l'évêque de Chartres. Monseigneur Harskuet.
Oui, l'évêque de Chartres a bien accepté de prendre très rapidement sous son aile, en quelque sorte, pour directrice, ce nouveau séminaire dans un camp de prisonniers, donc un séminaire dans des conditions extrêmement particulières. Et pour ce faire, il a d'ailleurs mis à la disposition du recteur de l'université, en l'occurrence donc l'abbé Franz Stock, il a mis à sa disposition son secrétaire particulier, le chanoine Pierre-André.
Qui était donc Chartrain ou...
Alors, qui était un breton, Chartrain aussi, bien sûr, puisque le chanoine Pierre-André était le secrétaire de l'évêque.
Alors, parlons peut-être du séminaire lui-même. En quoi consistait ce séminaire? Parce qu'on pense plutôt à une architecture en pierre, mais dans un camp de prisonniers, on n'a pas vraiment une architecture qui s'y prête normalement à y recevoir des séminaristes. Comment oui, se alors... présente ce séminaire à l'époque?
Alors le camp à l'origine, le séminaire à l'époque, était situé donc dans un camp immense, comme je viens de dire, de 34 hectares. Mais ce camp de 34 hectares ne comportait que 24 bâtiments en dur, on va dire en maçonnerie. Et la partie qui a été affectée à l'université catholique dans le bloc numéro 1 ne comportait donc que deux bâtiments de maçonnerie. Le reste était des baraques en bois. Donc ça, c'était la particularité de ce camp, évidemment. Maintenant, ces baraques en bois ont disparu. Il ne reste plus que les deux derniers bâtiments qui composaient le bloc numéro 1.
Donc à l'intérieur, on a dû subdiviser l'espace pour créer un dortoir, un réfectoire.
Alors, le bâtiment qui abritait la partie la plus active, si l'on peut dire, du séminaire, comportait trois parties. Une grosse moitié était située, ce qui était le dortoir, qui abritait environ 420 places de couchage, et puis l'autre moitié du bâtiment était divisée en deux, l'une affectée au réfectoire qui servait aussi de salle d'études, et le dernier quart finalement était affecté à la chapelle.
Alors une chapelle que l'abbé Stock va orner.
Alors oui, la chapelle évidemment va prendre quelques habits de lumière un petit peu pour abriter le culte. Et puis donc elle sera ornée dans un premier temps sur les murs, sur le pourtour du mur, par un chemin de croix qui a été peint par un jeune étudiant en théologie de l'époque, Lothar Zenetti. Quant à Franz Stock lui-même, il va assurer la tâche de peindre la peinture murale qu'on appelle la fresque et qui ornait le cœur de la chapelle du séminaire.
C'est l'occasion effectivement de dire que ces fresques qui malheureusement ont subi quelques dégradations au cours du temps viennent d'être restaurées et on va les inaugurer à la fin de cette année 2009, le 19 septembre, à l'occasion des journées du patrimoine, on va inaugurer donc ces fresques qui montrent de part et d'autre d'un immense crucifix la Vierge Marie.
Il y a la Vierge Marie et Saint Jean qui entourent évidemment le crucifix. Et puis d'autre part, sur la partie gauche, il y a Saint Michel qui représente à la fois l'Allemagne et la France réunies en un seul personnage, donc luttant contre le démon qui est la représentation bien sûr de la guerre.
Voilà à nouveau dans le studio de Radio Grand Ciel. J'ai avec moi dans le studio Hubert Briand, qui est le délégué chartrain de l'association des Amis de Franz Stock. Et nous étions en train de parler du séminaire des Barbelés, un peu de son histoire. Et nous étions en train de parler des fresques que l'abbé Stock avait lui-même peintes dans le cœur d'une chapelle créée à l'intérieur d'une grande baraque en béton, aménagé pour plus de 900 séminaristes qui ont été rassemblés dans ce séminaire non loin de Chartres, au Coudray. Nous parlions de cette fresque qui montre donc Saint-Michel qui est le saint patron de la France mais aussi de l'Allemagne, et puis autres personnages représentés sur cette fresque peint sur le mur par l'abbé Stock.
Oui, alors il reste un quatrième personnage qui est situé sur la partie droite de la peinture murale. Et il s'agit de Saint Boniface, qui est donc le patron de l'Allemagne et qui fut le premier évangélisateur de la Germanie au 8e siècle et qui a été le premier créateur d'un évêché en Allemagne, l'évêché de Fulda.
Fulda. Alors, l'abbé Stock est donc le personnage central. Comment se fait-il que ce prêtre allemand se trouve en Allemagne ? Il parle en France, il parle très bien le français et c'est sans doute cela qui va l'amener en France.
Bien, très jeune, Franz Stock était déjà un fervent partisan du rapprochement entre la France et l'Allemagne. Entre les deux guerres, il avait déjà fait partie de nombreux mouvements de jeunesse et des mouvements qui étaient tous en faveur de la paix, bien sûr, et du rapprochement entre les différentes nations, et particulièrement de la France et de l'Allemagne, que Franz Stock entrevoyait comme étant l'axe d'une Europe de paix. Alors, il a souhaité par la suite donc devenir prêtre et donc faire en même temps une partie de ses études d'étudiant en théologie, donc ses études de séminariste, à Paris. Il a obtenu l'autorisation de faire 3 semestres d'études au séminaire des Carmes à Paris.
Donc, il connaissait très bien la ville de Paris et finalement, il va y rester les dernières années de sa vie puisqu'il va être aumônier de la paroisse allemande à Paris.
Oui, alors il sera nommé aumônier de la paroisse allemande de Paris en 1934. Et puis à partir de 1940, les Allemands vont lui confier, en plus de la paroisse allemande de Paris, qu'il avait temporairement abandonnée en 1939 pour cause de guerre, vont lui confier en plus donc la charge des prisons parisiennes du Cherche-Midi, la Santé et Fresnes, dans les prisons dans lesquelles sont enfermés la majorité des membres de la résistance et également les otages qui tombaient aux mains des forces nazies, évidemment.
Donc il devait les confesser, les accompagner jusqu'au peloton d'exécution.
Alors il remplissait son rôle de prêtre en quelque sorte dans les prisons en transmettant la parole de Dieu évidemment vers les prisonniers qui souhaitaient l'entendre cette parole. Et puis d'autre part il ramenait quelquefois au sein de la religion également des gens qu'il avait pour différentes raisons abandonnés au fil des temps. Et puis d'autre part, il ne s'occupait pas essentiellement des prisonniers chrétiens, mais également de tous les horizons politiques ou religieux auxquels il pouvait malheureusement être confronté. D'ailleurs, on l'a vu autant avec des militants communistes comme Gabriel Péri ou les membres de l'affaire Manoukian. On l'a vu avec des juifs, etc. On l'a vu avec toutes sortes de religions. Tous les gens qui avaient besoin de son aide, il était là pour eux.
Comme l'avait rappelé Mgr Pansard, l'évêque du diocèse de Chartres, qu'effectivement, l'abbé Stock est l'incarnation de la charité puisqu'il voyait dans chaque personne son prochain, sans distinction, donc de son origine. Et il ne va pas se limiter justement à les accompagner au peloton d'exécution, à les préparer à la mort, il va faire plus, au risque et au péril parfois de sa vie.
Oui, il a pris un risque énorme, ne pas oublier déjà qu'il était allemand et que donc cette œuvre qu'il accomplissait auprès des prisonniers, c'était en quelque sorte une œuvre qu'il accomplissait auprès des ennemis de son pays. Et malgré cela, il arrivait à concilier finalement l'intérêt qu'il avait pour la personne humaine, pour l'âme humaine également, et puis en même temps son indépendance politique finalement par rapport à l'attrait politique peut-être de son pays, mais aussi surtout à l'attrait de la France, un pays qu'il aimait particulièrement. Donc il a un petit peu marché sur une corde raide pendant de très nombreuses années et pris des risques considérables pour arriver à maintenir cet équilibre effectivement très instable et très fragile.
Et comment est-ce qu'il parvenait à avoir la confiance des prisonniers qui étaient des Français, a priori des ennemis? Comment est-ce qu'eux, ils ont pu prendre confiance en un prêtre d'origine allemande?
Ben, je crois que ça tient surtout et particulièrement à son charisme et à sa façon de se comporter par rapport aux gens. Parce qu'il est évident que tout prisonnier, et particulièrement un résistant, qui voyait un confesseur allemand venir dans sa cellule pour, probablement, selon lui, dans un premier temps, lui soutirer des informations, c'était évidemment un ennemi potentiel qui se présentait au départ. Alors la confiance était quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir, mais il savait y faire et puis son charisme faisait en sorte que cette barrière était très facilement franchie.
Et il me semble que Edmond Michelet décrit la manière dont l'abbé Stock confiait certaines informations qui normalement devraient être restées secrètes, comment il les donnait au cours d'une prière d'un Ave Maria, en disant « Votre famille va bien ». Donc, pour assurer les prisonniers, il leur disait que les membres de la famille n'étaient nullement emprisonnés, ce qui pouvait remonter le moral à certains prisonniers. Et ceux qui ont pu s'en sortir ont rendu donc un vibrant hommage à l'abbé Stock. Et Edmond Michelet, d'ailleurs, est venu plusieurs fois rendre visite à l'abbé Stock au séminaire des Barbelés.
Oui, effectivement, on peut rappeler que le 14 juillet 1946, à 10h du matin, ceci une heure avant le défilé officiel à Paris, le ministre de la Défense, qui était Edmond Michelet, était présent au séminaire des Barbelés, au Coudray, en hommage finalement à son ami Franz Stock.
Quel autre illustre personnage s'est rendu plusieurs fois au séminaire, qui sera plus tard un grand pape?
Oui, alors un fervent visiteur qui s'est rendu, il s'est rendu à 4 reprises, mais c'est déjà important. Il s'agit en fait du nonce apostolique de l'époque qui s'appelait Angelo Roncalli et qui est devenu par la suite le pape Jean XXIII.
Donc, illustre visiteur qui soutiendra évidemment l'action de l'abbé Stock, et il dira que le nom de l'abbé Stock n'est pas seulement un nom, c'est tout un programme.
Oui, il s'agit d'un petit jeu de mots que Mgr Roncalli a fait à partir du terme Stock, qui signifie allemand également, bâton également en allemand.
Sur lequel on peut s'appuyer, bien sûr. Voilà, donc il disait, Franz Stock mérite l'admiration glorieuse qu'on lui porte. Il est dit de lui avec raison que sans aucune réserve et porté par l'esprit de sacrifice, il s'est totalement donné à Dieu et aux hommes. Le prêtre Franz Stock, ce n'est pas seulement un nom, c'est un programme, et c'est un peu cette phrase clé que l'on associe toujours au nom de l'abbé Stock, qui est une figure lumineuse, que d'ailleurs Monseigneur pensa à vous faire connaître à de plus en plus de personnes, d'abord dans notre diocèse, car c'est un pionnier de la réconciliation franco-allemande, et on va parler peut-être de la suite de l'histoire du séminaire après une petite pause musicale. Amis auditeurs de Radio Grand Ciel, je parle avec Hubert Briand, délégué chartrain de l'Association des Amis de Franz Stock, du séminaire des Barbelés, un séminaire qui accueillait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale plus de 900 séminaristes allemands. 600 prêtres vont être ordonnés, qui constitueront le noyau du clergé nouveau en Allemagne, qui garderont un souvenir merveilleux de ce passage pendant 2 ans dans ce séminaire dirigé par l'abbé Franz Stock. Ils vont se réunir en association, ils vont entreprendre un pèlerinage à Rome pour rencontrer le pape Jean XXIII, qui, dans sa fonction de nonce apostolique à Paris, Mgr Roncalli s'était rendu plusieurs fois à ce séminaire. Et nous parlions de l'histoire de ce séminaire des Barbelés et de la figure lumineuse de l'abbé Stock. Et qu'est devenu l'abbé Stock, qui est né en 1904 après la dissolution du séminaire, juin 1947.
Après la fermeture du séminaire, donc le 5 juin 1947, fermeture définitive, Franz Stock cette fois-ci est revenu à Paris à nouveau. Il a voulu rester en France et il est devenu l'aumônier des travailleurs libres, des anciens prisonniers qui ont donc souhaité rester travailler librement en France par la suite.
C'est étonnant.
C'est étonnant, oui.
Peut-être il faut rappeler que l'Allemagne était détruite et beaucoup de soldats avaient perdu foyer, famille,
voilà,
femmes
pour beaucoup
et
d'entre
enfants.
Eux, il ne restait plus grand-chose de leur passé en Allemagne. Alors, soit certains qui avaient déjà assuré un embryon d'avenir, ou même pour certains un avenir, puisque certains d'entre eux avaient même obtenu l'autorisation de se marier. Donc certains s'étaient déjà installés définitivement en France, et ces travailleurs libres avaient besoin finalement d'une aumônerie que Franz Stock a bien sûr prise en charge avec joie très rapidement.
À Paris ou...
À Paris.
À Paris. Donc il a 44 ans à peu près, 43 ans.
Il n'a pas encore 44 ans, il a 43 ans et demi, et il va malheureusement tomber malade, puisque moins de 8 mois plus tard, le 24 février 1948, il va décéder à l'hôpital Cochin à Paris.
Voilà, donc et on a dit de lui, dans les hommages, que sans doute les souffrances ont duré, et surtout d'avoir accompagné plus de 1000 résistants au peloton d'exécution, lui a littéralement brisé le cœur.
Oui, et le physique aussi a été sérieusement mis à mal, ne serait-ce que par son existence de prisonnier dans les camps américains des environs de Cherbourg pendant plusieurs mois.
Après la guerre.
Après la guerre, il a été donc prisonnier des Américains avant que l'on lui confie la charge de recteur de l'université catholique derrière les Bordelais.
C'est l'abbé Lemeur qui va d'ailleurs réclamer la présence de l'abbé Stock sur les lieux.
Oui, c'est l'abbé Lemeur et l'abbé Rodin, qui deviendra par la suite Monseigneur Rodin, qui vont être à l'origine finalement de la désignation, enfin de la suggestion de désigner l'abbé Stock comme étant ce futur recteur d'une université.
Alors, Franz Stock meurt le 24 février 1948, date anniversaire que l'on a célébrée d'ailleurs en 2008, très solennellement à Chartres, avec une messe. Où est-ce que l'abbé Stock va être inhumé dans un premier temps?
Alors, par les miracles de la rapidité de l'administration, Franz Stock était toujours prisonnier de guerre. Les papiers de libération, il n'avait toujours pas pu les obtenir le jour de son décès. Donc, c'est un prisonnier que l'on va enterrer d'une manière un petit peu confidentielle, dans le carré des Allemands du cimetière de Thiers, en région parisienne, sous un tas de terre et une croix de bois.
Et des Chartrains savent, et surtout les amis de Franz Stock savent, que sa tombe se trouve actuellement dans une église chartraine, dans le quartier Rechèvre.
Oui, alors quelques années plus tard, il a été décidé de ramener la dépouille de Franz Stock de la région parisienne où personne ne le connaissait, dans l'église nouvelle Saint-Jean-Baptiste de Rechèvre, un quartier de Chartres donc, où il se trouve actuellement.
Où beaucoup d'anciens amis ou alors, de résistants et de soldats ou de séminaristes se réunissaient déjà pour prier pour la réconciliation qui était en bonne voie.
Oui, tout à fait. Sa tombe est un lieu finalement de rencontre. Ça l'a été pour d'anciens résistants, ça l'est toujours. Ça l'a été surtout pour les Chartrenser, qui est le nom que s'étaient donné les anciens étudiants en théologie. Et puis c'est aussi le lieu de pèlerinage de nombreux Allemands et même de nombreux Français qui maintenant connaissent Franz Stock et qui viennent sur la tombe de ce personnage quand même hors du commun.
Alors cette église est une église en béton et en structure d'acier qui a été construite dans les années 60 avec le concours justement des anciens séminaristes.
Oui, l'église Saint-Jean-Baptiste de Rechèvre a été construite par des ouvriers du quartier de Rechèvre, bien sûr en majorité. La première pierre a été posée en 1959, pardon, et l'église a été consacrée par Mgr Michon en 1961. Mais cette église avait été précédée par une baraque en bois qui était l'ancienne baraque-chapelle du camp de prisonniers du Coudray et qui a servi temporairement d'église provisoire pour le quartier de Rechèvre avant cette construction nouvelle. Donc.
Voilà, et puis il y avait un maître verrier illustre qui a fait les vitraux de cette église. Oui, Max Ingrand, qui est un enfant du quartier de Rechèvre et qui est un personnage très important pour le vitrail. Donc cette église abrite aujourd'hui, depuis quelle date donc la dépouille mortelle de l'abbé Stock qui a été transférée du cimetière parisien Le Thiers à Rechèvre?
Alors ce transfert a eu lieu du 15 au 16 juin 1963. Et sur sa tombe, sa nouvelle tombe à Franz Stock, a été lu un message du pape, le message de Mgr Roncalli, devenu Jean XXIII, qui a été donc lu sur la tombe de Franz Stock le 16 juin 1963, était en fait le message d'un mort, puisque le pape venait de décéder la nuit précédente.
Quelle curieuse coïncidence. Donc, translation de la dépouille mortelle de l'abbé Stock, qui repose maintenant dans l'église Saint-Chèvre, qui abrite cette tombe, mais aussi donc dans un cadre fabuleux des vitraux de Max Ingrand. L'église de Rechèvre est ouverte évidemment aux paroissiens, aux pèlerins, mais le séminaire des Barbelés existe toujours donc au Coudray, et vous le faites visiter à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et plus particulièrement à l'histoire de la réconciliation franco-allemande, à l'histoire de l'abbé Stock. Et rappelons peut-être, pour ne pas l'oublier, que le 19 septembre 2009 aura lieu, dans le cadre des Journées du patrimoine, une cérémonie pour inaugurer les fresques peintes par l'abbé Franz Stock, et qui viennent d'être restaurées. Et au même jour aura lieu un colloque à Chartres, sous le vocable des lieux de mémoire le sacré, où d'éminents universitaires interviendront. Donc, cher Chartrain, maintenant vous savez un peu plus du séminaire des Barbelés que vous pourrez visiter. Et Hubert Briand, qui connaît très bien ces lieux, se fera un très grand plaisir avec ses amis, les autres membres de l'association des amis de Franz Stock, de vous montrer ces lieux, la chapelle, qui peut-être un jour va retrouver un hôtel. L'hôtel n'existe plus.
Non, l'hôtel a été démoli par la suite, lorsque le bâtiment a repris sa vocation de lieu de stockage de matériel militaire en 1948.
C'est une construction d'ailleurs très intéressante, qui date de quelle époque ?
Alors la construction actuelle, c'est un bâtiment en dur qui a été construit entre 1918 et 1920 par des prisonniers allemands de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, curieusement, sur un lieu qui abritait le dépôt des projecteurs d'artillerie, lesquels projecteurs ont laissé une trace, puisqu'on peut encore voir les rails qui permettaient de les activer en cas d'alerte.
Donc ce lieu garde le souvenir de cette époque. Les lits des prisonniers, séminaristes ont disparu, mais on peut encore se faire une idée des conditions assez rudes et austères dans lesquelles ces séminaristes ont été préparés à leur sacerdoce, assurant ainsi la continuité du sacerdoce dans une Allemagne qui avait souffert de l'athéisme du régime des nationaux socialistes. Et je vous remercie donc, Hubert Briand, de nous avoir présenté le séminaire des Barbelés, de nous avoir fait mieux connaître l'abbé Franz Stock. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs qui voudraient rencontrer Hubert Briand au séminaire des Barbelés au Coudray. Et vous pouvez vous renseigner. Vous avez peut-être un numéro de téléphone ?
Oui, alors le 06 15 17 52 14. Alors le séminaire est ouvert tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi. Donc entre 14h et 16h ou 16h30, on peut visiter le séminaire à volonté.
Merci beaucoup Hubert Briand, merci à la technique. Au revoir chers auditeurs de Radio Grand Ciel.
Merci.
Hudson! Hudson!